Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, l'animal, une bête politique. Bonjour Gilles Boeuf.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, professeur au Collège de France et à l'Université Pierre et Marie Curie, ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle. Parmi vos ouvrages ou vos contributions, je citerai « Révolutions animales », ouvrage collectif auquel vous avez contribué. C'était en 2016, qui a été publié aux éditions des Liens qui libèrent. Alors pourquoi parler d'animaux aujourd'hui dans cette émission ? Eh bien d'abord parce que ce sont eux les vraies vedettes de ce rendez-vous politique annuel qui est le Salon de l'agriculture, inauguré ce samedi par le président de la République. La preuve que ce sont eux les vedettes, ce n'est pas un agriculteur, mais une vache qui est choisie chaque année pour illustrer l'affiche du salon. Ensuite, parce que la question animale s'est imposée ces dernières années comme un véritable sujet politique, plus seulement porté par des associations militantes, mais également par de grandes organisations partisanes. La défense du bien-être animal, la remise en cause de notre modèle alimentaire excessivement carné ont fait partie des sujets abordés lors de la dernière campagne présidentielle et des législatives qui ont suivi. Alors l'animal, une bête politique, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie. Gilles Boeuf, je précise que vous êtes en duplex des studios de France Bleu à Bordeaux. Et la première question, alors c'est une question de pure curiosité, mais quand on s'intéresse aux animaux comme vous le faites, Gilles Boeuf, est-ce que le Salon de l'agriculture, c'est un endroit où il est utile d'aller pour y observer justement ce monde animal ?
Oh, bien sûr. Bien sûr, le Salon de l'agriculture, il est fondamental pour ce qui concerne l'animal d'élevage, l'animal domestiqué par l'humain. D'ailleurs, pourquoi y a-t-il autant d'enfants? Pourquoi ce salon a-t-il autant de succès? Les animaux jouent un grand rôle dans l'attrait de visite. Et c'est vrai qu'on va voir un petit peu la campagne amenée pour quelques jours sur Paris. Et l'animal est très symbolique. Et effectivement, comme vous le disiez à l'instant, le fait de prendre un animal comme symbole du salon, c'est important. Alors après, évidemment, quand on a ces images-là et qu'on les utilise en permanence, il faudrait peut-être aussi qu'on révise un peu nos relations de l'humain, l'homo sapiens, avec l'animal.
Alors c'est justement d'ailleurs, ça fait partie des discussions qui sont menées aussi dans le cadre du salon, c'est-à-dire on va y voir des animaux, on va y découvrir le travail des agriculteurs, mais aussi on y réfléchit, et de plus en plus à la question du bien-être animal, puisqu'il y a des conférences thématiques qui sont proposées encore cette année dans le cadre du salon. Est-ce qu'on peut y voir déjà une première preuve, disons si tant est qu'il en faille, Gilles Boeuf, que cette question de la cause animale est devenue une question politique incontournable?
Ah oui, elle est essentielle. Si vous voulez, des fois, je suis un peu effaré qu'en 2018, on se pose encore des questions du style l'animal souffre-t-il? L'animal est-il intelligent? Est-ce que le bien-être est important pour lui? C'est assez incroyable. Mais vous savez qu'il y a encore, il y a 20 ans, on opérait des bébés humains encore sans, on anesthésiait, mais sans analgésique, hein. Ça souffrait pas un bébé. Alors c'est vrai que tout ça a beaucoup changé. Les travaux de recherche fondamentale sur l'éthologie, le comportement des animaux a beaucoup, beaucoup progressé. Il y a un petit papier qui sort cette semaine dans la revue Nature qui montre que des fourmis organisées en colonies de combat ont des spécialistes d'infirmiers qui vont récupérer les fourmis abîmées, molestées, les fourmis blessées pendant le combat. Ça, c'est fou. En fait, plus on creuse le comportement des animaux et plus on découvre des choses incroyables. Donc c'est assez normal que l'opinion publique s'en empare et que le monde politique aussi, bien sûr, doive réagir. Alors, dans la relation agriculture-animal, c'est fondamental. Et c'est vrai que moi, ce qui me gêne toujours un petit peu, c'est que on fait une différence entre l'animal domestiqué par l'humain et l'animal sauvage. Et ça, c'est embêtant pour un biologiste, pour un écologue. L'animal est un animal. Alors, en plus, c'est compliqué quand on parle d'animaux. Là, on va parler de vaches, de cochons, de moutons, de poulets, mais les animaux, c'est à peu près 1,3 million d'espèces. Hein. Les premiers animaux connus sont les éponges marines. C'est évident qu'on va pas considérer une huître comme un chat, par exemple. Et donc ça, c'est difficile de parler de l'animal en soi. Et juste pour terminer l'introduction, je dirais que on a aussi un comportement difficile chez l'humain, c'est qu'on parle d'un animal comme d'une espèce, par exemple le chat, le chien, la vache, le poulet, qu'on va voir au salon. Alors qu'on sait très bien que chez les humains, en fait, l'humain X ressemble pas à l'humain Y. Hein. C'est sûr que comparer Einstein et Trump, c'est pas la même chose. Hein.
Alors cette complexité-là, d'ailleurs, Gilles Boeuf, elle complique aussi justement peut-être l'appropriation de cette question par le monde politique, même si je le disais en introduction, on a vu quand même un certain nombre de thèmes qui ont été portés lors de la dernière présidentielle. On a même vu se former un parti dont la mission est entièrement tournée autour de la défense de la cause animale. C'était fin 2016. Ce parti, c'est le Parti Animaliste. Il a présenté 142 candidats lors des dernières législatives.
Le sort réservé aujourd'hui aux animaux dans notre société apparaît chaque jour plus insupportable à un nombre croissant de citoyens. 80% des Français jugent que la question animale est importante et ils sont nombreux à faire part de leur volonté de voir les animaux mieux protégés. Le Parti Animaliste s'est créé pour répondre à cette attente. Le Parti Animaliste est le premier parti politique français centré sur la question animale. Il est animé par un désir de justice et de progrès et promeut une évolution de la société prenant en compte les intérêts des animaux et repensant les relations entre les animaux et les humains.
Alors ce Parti Animaliste, qui est encore très jeune, n'a réalisé qu'un très faible score lors des législatives, 1,1% sur l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles il présentait des candidats. Gilles Boeuf, qu'est-ce que vous pensez du fait que, justement, des formations politiques s'approprient un thème exclusif qui est celui de la cause animale? J'ajoute juste dans ma question, et je précise que vous aviez été signataire, à la même époque d'ailleurs, au moment de la création de ce parti, d'une tribune qui demandait la création d'un secrétariat d'État à la cause animale. Est-ce que ça veut dire que cette question-là, elle a besoin d'être prise en charge de manière très spécifique par le politique ?
Oui, bien sûr. D'un autre côté, bon, je ne sais pas si on peut dédier un parti à l'exclusive activité de la protection de l'animal, mais qu'on en parle, comment ça en fasse parler et que les gens qui font des scores beaucoup plus élevés que ces partis particuliers-là doivent en fait tenir compte de cette évolution de la pensée des citoyens français, c'est important. Et donc c'est vrai que ça relance tout le débat sur la question de la politique et de l'animal. Lui n'a aucune envie d'entrer en politique, l'animal. C'est comment nous, on va les défendre. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Ça, c'est très important à dire en permanence. Un loup, une vache, ne va pas pouvoir se défendre. Il va falloir que des humains utilisent des mots, utilisent des actions, des activités pour le défendre.
Alors, utilise d'abord quoi? Utilise peut-être d'ailleurs le droit pour commencer, quelques avancées justement sur ce sujet.
Le droit a avancé, il faut monter à la fin du mois de janvier 2015 pour qu'on reconnaisse enfin, il y avait un code rural qui tenait compte de cela, mais dans le droit français en fait, l'animal est devenu sensible fin janvier 2015, c'est hier, alors que l'animal a toujours été sensible. Ce qu'il faut voir en compte dans cette loi, c'est que l'humain reconnaît la sensibilité de ces animaux pour la première fois. Ils souffrent, ils sont capables de mal-être. Et puis, bien sûr, aussi, ils sont dans une situation bien particulière de dépendance. Mais c'est encore des meubles pour le système juridique. Et encore une fois, je n'aime pas un système qui sépare l'animal domestique de l'animal sauvage. En fait, il y a une cause animale dans l'ensemble. Et ça relance le débat sur c'est quoi un animal, c'est quoi le bien-être. Alors, la politique, c'est intéressant parce que la politique, elle est forcément liée à un système collectif. Pour l'humain, elle est basée sur une constitution. C'est aussi la pratique du pouvoir. Pour l'animal, ça va être un petit peu différent, effectivement. Mais les animaux ont des politiques entre eux, et même, je prends le cas du loup en France, en ce moment on en parle beaucoup, avec le monde ovin, le loup a une véritable géopolitique.
Alors, ils ont une géopolitique, ils ont des organisations, mais on voit bien, comme vous le dites, Gilles Boeuf, que pour ce qui est de la défense de leurs droits, il faut que ça passe par l'humain, ça passe notamment par le droit, qui peut être justement modifié du fait de l'avancée de la connaissance sur le monde animal. C'est ce que révélait justement ces révolutions animales, ce livre collectif auquel vous avez participé. Est-ce que vous diriez que cette avancée de la connaissance, elle entraîne du coup une prise de conscience qui est avant tout morale, c'est-à-dire à partir de moment où on comprend que les animaux sont intelligents et doués de sensibilité, on ne peut plus les traiter comme si on ne le savait pas.
Oui, tout à fait. Je pense que ce sont des prises de conscience, ce sont des messages que l'on fait passer, que chacun doit analyser avec sa conscience en lui, qu'il a chacun en lui-même. Je dirais que c'est plus une question éthique que morale. C'est vraiment une spiritualité aussi. Est-ce qu'on est capable d'avoir les animaux comme accompagnateurs, ceux qui vivent encore aujourd'hui avec nous, de l'évolution de l'humain aujourd'hui? Depuis les origines de l'humain, vous savez, moi je remonte par exemple aux Homo habilis en Afrique il y a 3 millions d'années, quand Lucie allait chercher un petit morceau de viande sur un cadavre de zèbre abattu par un lion il y avait 15 jours, Après qu'étaient passés entre-temps les hyènes et les vautours, c'était pas simple, hein. Mais c'était vital. Sans ces comportements-là, nous, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, après, ça va lancer tout le débat sur les extrêmes de tous les côtés. Certains vous disant, bon, l'animal, il a aucun droit. De toute façon, on fait ce qu'on veut avec. Il a pas de conscience. Il a absolument aucune reconnaissance de dignité. À l'inverse, où les gens vont vous dire, bah, écoutez, dans ce cas-là, on touche plus aux animaux, effectivement, on n'en mange plus jamais, plus du tout, on n'utilise aucun produit animal, alors que depuis qu'elle existe, l'humanité a utilisé des produits animaux. C'est une, trouver un intermédiaire juste dans lequel chaque humain se reconnaît et a envie d'avoir l'activité qu'il veut pratiquer avec la meilleure harmonie possible avec ce monde animal qui nous entoure.
Est-ce que vous avez sentiment, justement, Gilles Boeuf, que cet intermédiaire juste, on l'a trouvé aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il y a des droits qu'on pourrait appeler des droits politiques qui mériteraient encore d'être acquis par les animaux? Vous parlez, par exemple, de la question de la dignité. Est-ce que ça fait partie de ces droits à conquérir pour l'animal?
Pour moi, oui. La question, c'est qu'aujourd'hui, bon, vous savez, maintenant, je suis un peu plus âgé, je me suis battu contre les moulins à vent jusqu'à 35 ans, maintenant, basta, maintenant, donc j'arrête. Parce que ça donne des boutons à certains. Alors, ok, ils ne sont pas dignes. Dans ce cas-là, notre dignité à nous, Homo sapiens, nous impose de les respecter. Ça, c'est extrêmement important, et de considérer la cause animale, pas uniquement à travers, bien sûr, notre vision des animaux domestiques, qui, eux, ont coévolué avec l'humain. Si je prends un chien, par exemple, aujourd'hui, dans certains tests d'intelligence, il est meilleur que le chimpanzé. Quand ce sont des tests de connivence avec l'humain, parce que ce chien a été profondément façonné par l'espèce humaine depuis 35 000 ans, hein, qu'il était domestiqué. Par contre, c'est vrai que sur des tests un peu différents, le chimpanzé, tellement, se perd au chien. Puis après, vous avez des espèces emblématiques, le dauphin. Alors, encore une fois, une question d'extrême, quand on vient me dire, vous savez, peut-être que le dauphin est plus intelligent que l'humain, ça n'a aucun sens. C'est quoi l'intelligence? C'est le fait que, dans des conditions qu'on n'a encore jamais vécues, l'individu en question trouve la meilleure réaction possible en un minimum de temps, c'est ça. Et certaines fois, le rat est meilleur que nous, pour sortir d'un labyrinthe, par exemple. Hein. Donc en fait, chaque espèce a été façonnée dans des conditions d'environnement et de mode de vie qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui.
Est-ce
et
que ça pourrait vouloir dire, Gilles Boeuf, que chaque espèce devrait avoir peut-être des droits différents les unes des autres, en fonction justement de ce que sont leurs capacités à être intelligentes, à souffrir, à avoir de la sensibilité?
Alors ça, c'est une vraie question. Dans le droit français de la loi de janvier 2015, on ne reconnaît pour l'instant comme étant sensible que les vertébrés, c'est-à-dire oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles et poissons. Et le seul groupe d'invertébrés, tout le reste, qui est reconnu sensible, sont les céphalopodes. Les céphalopodes, ce sont les seiches, les calmars, par exemple, les pieuvres. Ces animaux ont un système nerveux extraordinairement développé, avec des yeux incroyables. Une petite histoire, justement, pour être anecdotique, intéressante, sur une seiche dont la femelle est marbrée et le mâle zébré. Alors, c'est les gros mâles zébrés qui gagnent toujours. Et ben, un petit mâle zébré devient marbré pour ressembler à une fille. Il s'occupe des filles pendant ce temps-là. Vous voyez que, ou ce petit oiseau, ce petit moineau qui réchauffe ses asticots sur le capot d'une voiture qui a fait le trajet Paris-Montpellier et qui donne comme ça des asticots cuits, donc beaucoup mieux digestibles, ben c'est petit. Chaque espèce a trouvé des trucs absolument géniaux pour, dans son domaine d'activité et son mode de vie à lui, il soit le meilleur.
Alors donc il y a cette avancée de la connaissance qui permet au fur et à mesure qu'on apprend des choses sur les différentes espèces animales de mettre cette question éthique que vous évoquiez à l'avant et d'avoir un comportement qui s'adapte progressivement à l'état de cette connaissance. Mais est-ce qu'on peut pas aussi mettre la cause animale sur le plan d'une forme d'égoïsme du monde humain, c'est-à-dire de se dire finalement... On est aussi aujourd'hui dans une ère, alors qu'on qualifie d'anthropocène, c'est-à-dire une ère où l'être humain, par son existence et par son activité, provoque aussi peut-être la disparition d'autres espèces autour de lui, et donc est lui-même menacé par sa propre activité, et que donc les humains que nous sommes ont intérêt à protéger les animaux parce qu'ils se protègent eux-mêmes.
Bien sûr. Au sens large de la nature, d'abord. Ensuite, la biodiversité, la partie vivante de la nature, et après les animaux, évidemment. Quel serait un monde où, effectivement, il y aurait plus d'animaux? Ça n'a pas de sens. Ou que des animaux domestiques. Vous savez, on parle souvent de comportement inhumain d'un humain qui a fait des choses horribles. On parle jamais de comportement inanimal des animaux, ça c'est clair. Et c'est aujourd'hui quelque chose de très important pour qu'on reconnaisse que l'animal a profondément apporté à l'humanité depuis son origine. Regardez aujourd'hui, on fait de la thérapie avec les animaux, avec un cheval, avec un lapin, pourquoi pas, avec des chiens, avec des dauphins même. C'est vrai que ce que l'humain a oublié, en fait, c'est son contact viscéral avec cette nature qui l'entoure. Il est issu de ce monde animal. Vous savez, les neurones d'une pieuvre, d'un chimpanzé ou d'un humain sont exactement les mêmes, hein. comment on les utilise, comment on travaille en relation intime. On a perdu l'harmonie. Et comme on est de plus en plus citadin, maintenant, depuis quelque temps, depuis 2007, on a basculé à un monde où il y a plus de gens dans les villes que dans les campagnes, on a oublié cette relation à l'animal. Et c'est ce qu'on voit au sein de l'agriculture, hein, le contact avec le monde paysan, qui est essentiel, bien sûr, pour tous ces Parisiens qui vont le visiter, c'est un retour à la compréhension de ce qu'est la nature par rapport à la ville.
Alors, il y a un livre important qui a été publié il y a quelques années, mais traduit en France seulement récemment, qui explique justement ces relations entre l'homme et l'animal, relations d'un point de vue institutionnel, ces zoopolis, donc qui théorise voilà la question de la zoopolitique. C'est écrit par Sue Donaldson et Will Kimlicka. Ça a été publié chez Alma Éditeur et préfacé par Corinne Pelluchon. Ça date de 2016, je crois, sa version traduite.
Française.
La version française, bien sûr. Du point de vue justement des institutions politiques, si on pousse du coup, alors peut-être un petit peu loin, une forme d'anthropomorphisme, mais est-ce qu'on peut dire que la dimension politique de l'animal, elle est aussi dans la façon dont il s'organise? Est-ce qu'on pourrait parler de système politique dans le règne animal?
Bien sûr, évidemment. Il serait plus là. Dès le moment où ces animaux vivent en société, pour un animal isolé, c'est différent. La politique, c'est une question de relation entre des individus, entre des sociétés. On n'a pas de société animale, on a reconnu ça à des groupes aussi différents, d'ailleurs, que des mammifères, des oiseaux, ou bien des insectes, des abeilles. Hein. Ils sont absolument extraordinaires quand tu vois ce qu'ils peuvent arriver à faire. Tout à l'heure, j'évoquais ces fourmis qui ramassent leurs blessés. Le loup, aujourd'hui, quand on voit le comportement du loup qui est revenu en France, il fait de la géopolitique. Quand il marque un territoire par ses excréments, ça marche très très bien, hein. Un loup d'un clan différent, c'est très bien qu'il ne franchira pas une barrière d'odeur. Il sait qu'il risque sa vie s'il le fait. Vous savez, nous, on a des fanions, on a des drapeaux, on a des essences même qui représentent un petit peu nos territoires. Beaucoup d'animaux, dont le loup que j'évoquais à l'instant, le font par des odeurs. En mer, c'est extrêmement important, le monde aussi de ces odeurs. En fait, la chimie est vraiment la communication animale par essence, beaucoup plus que la vision. Donc, bien sûr, il y a un monde géopolitique pour tous ces animaux qu'on évoque. Une termitière, une ruche, hein, il y a quand même 30, 35 000 abeilles dans une ruche, elles sont pas organisées n'importe comment. Un autre aspect qu'on a vérifié récemment, c'est sur les sons. Ça, c'est les travaux de Bernie Krause aux États-Unis qui nous montrent en fait que sur un paysage apparemment pas touché, on voit aucune différence. Lorsqu'on enregistre les sons, ils ne sont pas les mêmes. Entre un paysage un petit peu dégradé et un autre. Et dès qu'un animal s'exprime par des sons, dès qu'il chante ou dès qu'il crie, il ne le fait pas n'importe comment. Il le fait dans un grand orchestre symphonique. Et c'est là que l'humain a complètement oublié ça. Et par cet anthropocène que vous évoquiez avec effectivement ce moteur essentiel de l'évolution qui est devenu l'humanité aujourd'hui sur l'évolution de l'humanité, eh bien on a oublié ça. On perd des choses tous les jours. Et on ne s'en rend même pas compte. C'est quand même assez débile pour une espèce qui s'appelait sapiens.
Alors Gilles Boeuf, l'animal s'exprime par des sons, par des cris. Il est parfois aussi doué de paroles. Vous évoquiez le cas des fourmis. Ben, écoutez, des fourmis qui sont en train de parler.
Le sacrifice. Pour certains, ce n'est qu'un mot. Pour d'autres, c'est une règle.
C'est là que je vois que je ne suis pas doué pour les jeux de mots.
Un soldat sait que la vie d'une fourmi en tant qu'individu ne compte pas. Ce qui compte, c'est la colonie. Le soldat veut vivre pour la colonie, se battre pour la colonie, mourir pour la colonie.
Ce mec est complètement dingue.
Je t'ai entendu.
À 08h00, nous avons appris que l'ennemi termite avait mobilisé ses troupes. Il ne nous laisse pas le choix. Nous devons effectuer une série de frappes préventives. Vous êtes les troupes d'élite de la reine. Je sais que chacun de vous fera son devoir. Je suis fier de vous envoyer au combat.
Au combat? Pardon,
alors Gilles Boeuf, je ne sais pas si vous avez reconnu cet extrait, je ne sais pas si vous aviez vu ce film d'animation qui date de 1998, film signé Eric Darnell et Tim Johnson, Fourmise, ça se passe donc dans une fourmilière avec le héros qui est interprété dans la version originale, là c'est évidemment la traduction française, mais par un certain Woody Allen. On entend donc cette idée du sens du sacrifice, on entend une fourmi qui se rend compte qu'elle n'a pas forcément très envie d'aller justement à la guerre. Est-ce que l'obéissance, la désobéissance, la coopération, ce sont des modes d'organisation qu'on retrouve très souvent justement dans les sociétés animales?
Totalement, définitivement, bien sûr. Il y a même des cas assez intéressants où un individu va s'offrir comme proie en se montrant devant l'ennemi, en disant voilà, mangez-moi moi, et si vous me mangez, effectivement, je sauverai les autres. Mais c'est pas une idée de sacrifice, il n'y a pas effectivement l'organisation au sein de la société de dire un tel va se sacrifier ou tel autre. La question, c'est l'organisation qui marche depuis très longtemps. Vous savez, On a fait dire à Darwin un tas de trucs qu'il avait jamais dit sur la compétition, et ça a été repris très très à la mode. On parle de darwinisme, c'est pas ça. Darwin a beaucoup démontré la symbiose et la coopération. Récemment, nos amis de Tara Océan ont fait un tour du monde sur un voilier et ont regardé l'ADN de toute la superficie de l'océan, et ils montrent que sur les peut-être 600 000 espèces qu'ils ont regardées, il y a beaucoup beaucoup plus de coopération que de compétition, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. L'harmonie du vivant, c'est ça, en fait, hein. Elle peut être violente, hein. Un guépard qui abat un impala, une antilope, c'est violent. Mais il y aura toujours plus d'impala que de guépard, et ça marche globalement. Et l'humain a un peu perdu ça. Je dirais que pour l'animal, au départ, dès qu'il a conscience de cela, il a deux questions qui le lancinent chaque matin. Est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce que je vais pas être mangé aujourd'hui? Alors, on a un peu perdu ça, heureusement, au niveau de l'espèce humaine. Mais ça reste une inquiétude du système vivant depuis le début. Mais dans l'organisation générale, ça fonctionne depuis très longtemps. Donc, bien sûr que pour ça, il faut une relation politique de ces colonies ou ces populations animales qui vivent entre elles. Un groupe d'éléphants est capable d'aller jeter un individu chétif et malingre sur une barrière électrique pour passer de l'autre côté. Et puis, ils ont des consciences, ils ont des mémoires. En fait, plus on creuse, plus on les trouve. On est émerveillé, hein. Je crois que le mot émerveillement est pas trop fort sur des capacités de comportement d'animaux. Je me rappelle cette pieuvre au musée de Monaco qui sortait de son bassin, qu'elle ait mangé une coquille Saint-Jacques dans le bassin d'à côté et qui revenait à son bassin en retirant le couvercle du bassin sur sa tête. C'est génial.
Pour revenir aux insectes et aux questions d'organisation politique, Gilles Boeuf, vous avez évoqué à plusieurs reprises, enfin on l'avait évoqué avec cet extrait, les fourmis, les abeilles, la ruche, ce sont des sociétés animales dans lesquelles il y a une reine, par exemple. Alors est-ce qu'on pourrait dire que les abeilles vivent sous le régime de la monarchie? Ou bien est-ce que ce serait pousser l'anthropomorphisme un petit peu trop loin?
C'est une image humaine. En tout cas, est-ce que la reine est le leader? D'abord, comment elle est devenue reine? Il faut se poser la question, c'est intéressant. On parle d'une abeille ordinaire qu'on a nourrie avec autre chose, la gelée royale, alors qu'ils ont les mêmes gènes au départ, hein. Mais là, c'est la façon de l'alimenter, ce qu'elle a mangé, qui va la métamorphoser, un, pour qu'elle vive beaucoup plus longtemps que les fourmis de la ruche, deuxièmement, pour qu'elle soit féconde. Et effectivement, une fois qu'elle a fait son vol nuptial et qu'elle a été fécondée par un faux bourdon, elle va donner naissance à des milliers de, d'abord deux fécondés, de petites abeilles. Donc, il y a une organisation. Alors, nous, on l'a appelée reine dans l'image que l'humain se fait d'une société, hein. On aurait pu l'appeler différemment. On aurait pu dire que c'était aussi tout ce que vous voulez dans la société. En tout cas, c'est pas le chef, mais c'est la clé du système. Et pour qu'une ruche puisse se recréer, il faut absolument, effectivement, qu'une reine soit conservée sur un site différent et qui permettra à la ruche de se réorganiser, de se repréparer. Donc, il y a des analogies qu'on peut faire. Mais méfions-nous beaucoup, durant cet anthropocène dont on parle, de l'anthropomorphisme. Je prends un exemple. Quand j'avais participé à la loi sur la reconnaissance des poissons comme étant êtres sensibles, la loi dit aujourd'hui, on peut pas laisser un animal à jeun trop longtemps. Je le comprends pour un mammifère ou un oiseau. Si je prends le cas d'un saumon, il reste 6 mois sans s'alimenter, sans manger durant sa migration de retour.
Et donc c'est pas de la maltraitance si on le nourrit pas.
Ne lui pose aucun problème.
Toujours dernière tentative peut-être d'anthropomorphisme. Est-ce qu'il y a des cas où on constate que des animaux vont aller contre le système, le refuser? J'ai vu par exemple que vous évoquiez dans le livre Révolutions animales le cas de certains macaques qui pouvaient se mettre en grève. Alors là aussi évidemment c'est une catégorie très humaine. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
Alors, pourquoi ils l'avaient fait? C'est intéressant. Ils s'étaient mis en grève devant un sentiment d'injustice. Ils sont extrêmement sensibles à cela. On a fait des expérimentations où, effectivement, on donne un cadeau toujours au même, mais ça met les autres en colère pas possible. Ils sont en boule, hein. Et dans ce cas-là, puisque c'est comme ça et qu'on continue, on va se mettre en grève. Mais bien sûr, il y a des velléités de résistance. D'ailleurs, vous savez, dans l'histoire de l'évolution, même pour des comportements bien connus, je reviens à mes chers saumons, il y a toujours ce qu'on appelle un coefficient de divagation. Ce sont des animaux qui vont pas revenir à leur rivière de départ. Ils vont les voir un petit peu ailleurs. Et quelquefois, ils sont essentiels dans l'évolution. Parce que lorsque la première rivière est contaminée pour différentes raisons, la conquête d'une autre est extrêmement importante. Il faut toujours un peu d'audace, d'espace un peu différent, de pas être tout le temps dans le système. Vous savez, c'était l'histoire aussi de ces papillons qui étaient blancs au départ, les phalènes qui vivent sur les bouleaux. Et il y avait toujours un haut de noir. Et on a vu les noirs se développer dans les pays. Effectivement, il y a beaucoup de suie de charbon sur les arbres. Et maintenant qu'on n'exploite plus les mines de charbon, les blancs reviennent. Il y a toujours, justement, dans le système, quelques individus un peu particuliers. Ça, c'est super astucieux et intéressant. Ce sont les aventuriers.
Alors, ce que vous nous expliquez très bien, Gilles Boeuf, c'est qu'il ne faut pas abuser, peut-être, de catégories humaines pour les plaquer sur les animaux. Mais les animaux peuvent être aussi, quand même, extrêmement intéressants pour porter des messages qu'on n'a peut-être pas la possibilité de porter nous directement. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
Alors on pourrait citer parmi les œuvres de fiction, puisque c'est de cela dont il s'agit, La ferme des animaux de George Orwell, qui est une satire du totalitarisme communiste, La bête est morte d'Edmond François Calvo, qui est une bande dessinée qui évoquait la résistance au nazisme, hein, qui date de 1944. Mais évidemment, le maître en la matière, Antoine, c'est Jean de La Fontaine.
Ah oui, c'est Fab de La Fontaine, hein, qui n'ont rien perdu de leur portée morale et politique aujourd'hui encore. J'ai interrogé sans doute le meilleur spécialiste de ces fables, Patrick Dandré, qui est professeur de littérature française du XVIIe siècle à la Sorbonne et qui est aussi président de la Société des Amis de La Fontaine. Alors je lui ai demandé quel était l'intérêt à l'époque du Roi Soleil d'utiliser des figures animales pour exprimer des messages politiques et des moralités.
Une fable est une allégorie morale, c'est-à-dire une démonstration imagée. Il y a dans une fable un récit qui est une situation circonstancielle, une variable. Et puis il y a une moralité qui est une constante, qui est pérenne. Le récit regarde côté animal, la morale regarde côté homme. Pourquoi ? Parce que l'animal est un simplificateur. Dans l'imaginaire ancien, vous savez, La Fontaine est un héritier, la fable, ça remonte très loin, les animaux sont pourvus de qualités éternelles. Tous les renards sont rusés, toutes les tortues sont lentes, tous les chiens sont fidèles et tous les loups sont naïfs. C'est un mélange assez confus d'ailleurs, parce que la tortue soit lente, c'est plutôt une observation de nature. Que le renard soit rusé, peut-être. Que les loups soient naïfs, ça, c'est une autre affaire. C'est un peu anthropomorphique. Peu importe. Ces animaux vont être les agents d'un récit, c'est-à-dire d'une situation circonstancielle. Et cette situation circonstancielle va permettre de dégager les principes d'une morale. D'une morale qui, elle, fait recours aux valeurs. C'est-à-dire que nous sommes devant un geste éminemment politique. Le geste politique, ça consiste à s'interroger sur la manière dont les principes, les valeurs, l'universel, s'inscrit et doit être adapté à du circonstanciel, du variable, du situationnel. Et en ce sens, les animaux sont, pour simplifier la perspective, d'excellents agents d'une syntaxe qui est celle de l'application des principes aux réalités, ce qui est le fond de toute politique. Prenez la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, les deux premières fables. Bon, récit d'étourderie, animaux imprévoyants, valeur de prudence. Faites l'application politique. En période de prospérité, faut-il, je dirais, baisser la durée du travail pour se laisser aller aux loisirs, chanter tout l'été, ou augmenter les cadences, comme le font les fourmis, pour accumuler ou éventuellement régler des dettes. Vous avez là un problème concret qui est posé concrètement par la fable et rapporté à des valeurs qui sont le rapport au temps. Vous avez là donc une manière de réduire à l'élémentaire, au grammatical, en l'emblématique, les questions complexes, je dirais, de l'action dans ses rapports aux fondamentaux. Quand La Fontaine dit donc « je me sers d'animaux pour instruire les hommes », le verbe « instruire » est à prendre vraiment au sens fort. Il devrait être au programme de tous les concours de l'ENA.
Voilà, donc le professeur de littérature classique Patrick Dandré, on peut écouter la deuxième partie de son interview sur la page internet de notre émission et notamment sa réaction aux annonces de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de distribuer les fables de La Fontaine à tous les élèves de CM2.
Alors, de CM2 et au concours de l'ENA proposé donc Patrick Dandré. Une réaction, Gilles Boeuf, à ce que vous venez d'entendre?
Ah, ça plaît beaucoup. Depuis le temps, je me bats pour mettre un cours d'écologie à l'École nationale d'administration. Ces gens-là ont le pouvoir. La politique, c'est aussi le partage des pouvoirs. Et ces gens-là, effectivement, n'ont aucune notion de ce qu'est l'écologie. L'écologie, c'est la science des relations entre les êtres vivants, entre eux et avec leur milieu. Donc, si on avait de l'écologie, et les fables de La Fontaine sont effectivement une très, très, très belle image de tout ça, ça serait beaucoup mieux. Il faut absolument qu'on réharmonise l'humain avec le monde.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Gilles Boeuf, d'avoir participé à cette discussion. Je renvoie, alors, parmi les ouvrages auxquels vous avez contribué, ou que vous avez écrit, donc, à ce Révolutions animales, qui est très complet, publié aux éditions Les Liens qui libère, c'était en 2016. Je signale également le manifeste animaliste Politiser la cause animale de Corinne Pelluchon chez Alma Éditeur. Et puis, puisqu'on a parlé des fables de La Fontaine, cette très belle édition aux éditions Diane de Cellier, illustrée par un grand illustrateur, Jean-Baptiste Oudry. Merci à vous donc, Gilles Boeuf. Merci à toute l'équipe de Politique. Antoine Dulster, émission réalisée par Véronique Villac et mise en ligne par Prune Saez avec à la prise de son Jacques Hubert, une émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr.